On avait la radio et on trouvait ça extraordinaire. On entendait la voix de quelqu'un qui n'était pas là. Et puis après, on a eu la télévision en noir et blanc avec toutes sortes de choses dans l'écran qui faisaient... Et on trouvait ça extraordinaire parce qu'on voyait quelqu'un qui n'était pas là. Puis finalement, on a réussi à enlever toutes les interférences et à faire une télévision en couleur. Ça, c'était le sommet de la gloire. Télévision en couleur. On voit des gens qui ne sont pas là, qui sont à l'autre bout du monde, et on les voit en couleur. Et puis aujourd'hui, vous avez dans des salles, vous avez des gens qui sont tous là avec des lunettes qui les font ressembler à des martiens. Et ils sont en train de regarder un film en 3D. Et ils sont tous cramponnés à leur chaise parce qu'ils attrapent le tournis, parce qu'on leur montre un film en avion, ils ont l'impression d'être vraiment dans l'avion, parce que c'est en 3D. Et on a l'impression d'avoir fait une invention fantastique. Figurez-vous que le 3D, Dieu l'avait inventé depuis longtemps. Les images qui nous frappent aujourd'hui, beaucoup plus que les mots, Dieu savait depuis longtemps que c'était le meilleur moyen de nous enseigner quelque chose. Et dans l'Ancien Testament, le 3D se trouve dans le sanctuaire. Pas besoin de mettre des lunettes qui nous font ressembler à des martiens. Il nous suffit d'ouvrir la parole de Dieu et de voir cette image extraordinaire que le Seigneur a donnée à son peuple dans ce temps-là pour nous faire comprendre son plan du salut. Alors, je n'aimerais pas ce matin rentrer dans tous les détails du sanctuaire, ce serait déjà toute une étude en soi. J'aimerais regarder un détail du sanctuaire. Je ne suis pas en train de dire que tous les détails du sanctuaire peuvent être exploités pour en tirer une leçon précise et complexe. Mais j'aimerais cependant prendre avec vous un détail du sanctuaire et de le regarder avec vous pour que nous puissions voir quel sens ce sanctuaire peut avoir pour nous aujourd'hui. Vous avez sous les yeux cette image du sanctuaire, une reproduction d'après les indications que l'on a dans les Écritures. Et vous voyez que le sanctuaire est entouré d'une barrière qui forme le parvis. Et il y a 60 colonnes qui forment ce sanctuaire. Ne comptez pas sur l'image, je ne sais pas si le nombre est exact. Oui, mais dans le texte, il nous est dit qu'il y a 60 colonnes qui forment l'ensemble de cette ceinture qui constitue le parvis du sanctuaire. Alors j'aimerais regarder l'une de ces colonnes avec vous aujourd'hui. Une de ces colonnes. J'aimerais prendre le texte qui se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 38. Nous pourrions lire un passage plus important où il nous est décrit les différentes colonnes. C'est là que nous pouvons en faire le calcul. Il y en a 60. Mais il nous est dit au verset 16, « Toute l'étoile formant l'enceinte du parvis était de fin lin retors. Les bases pour les colonnes étaient d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. » Voilà la colonne que l'on a, une de ces 60 colonnes qui fait le tour du sanctuaire, et que j'aimerais regarder avec vous ce matin. Une colonne. Cette colonne en bois, que représente-t-elle ? Dans la Bible, cette image est utilisée à d'autres endroits. Regardez par exemple dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 15. Ézéchiel chapitre 15, il y a là une comparaison, une parabole proprement parlée qui est présentée par le prophète. Et au verset 6, il est dit ceci. Ézéchiel chapitre 15, verset 6. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, comme le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt. Ce bois que je livre au feu pour le consumer, ainsi je livrerai les habitants de Jérusalem. L'image est fort simple. Un arbre, une personne, une forêt, le peuple. L'arbre, le bois, est souvent utilisé pour représenter l'être humain. Et l'image est intéressante parce que, par opposition au métal, le bois n'est pas très résistant. Il est putrescible. Il peut brûler. Il se détruit beaucoup plus facilement que le métal ne va se détruire. Et c'est la raison pour laquelle dans le sanctuaire, ce qui est en bois est associé à l'humain, ce qui est en métal est associé au caractère divin. Cette colonne en bois représente un homme. Et ce n'est pas surprenant, on a d'autres images. Vous vous souvenez de cette vision que le roi Nebuchadnezzar a eue d'un grand arbre puissant qui le représentait lui. D'autres images sont utilisées encore, même dans le Nouveau Testament, dans le même sens. Regardez dans l'Épître de Paul aux Galates, par exemple. Épître de Paul aux Galates, au chapitre 2. Il y a là une longue phrase qui commence beaucoup plus tôt, mais je vous propose de lire simplement à partir du verset 9, où il est dit « Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. » Voilà, la même image est utilisée encore une fois dans le Nouveau Testament, en parlant de Jacques, de Pierre et de Jean, qui sont regardés comme des colonnes dans l'Église. Cette colonne, de toute évidence, dans le sanctuaire, représente des êtres humains, des hommes et des femmes. Mais vous avez vu, le texte nous dit que cette colonne, c'est pas simplement un piquet planté en terre avec une boîte de conserve dessus, comme on trouve parfois dans les champs. Elle a une base en airain, elle a un chapiteau en argent, des crochets et des tringles qui vont les rattacher aux colonnes d'à côté, tout ça en argent. Alors la base d'airain. L'airain est un alliage intéressant. C'est l'alliage de deux métaux qui sont considérés comme mous, le cuivre et l'étain. Deux métaux qui sont malléables. Mais quand on met ces deux métaux malléables ensemble, on a quelque chose d'extrêmement dur, qu'on va appeler l'airain ou qu'on va appeler le bronze, avec lequel on va faire des cloches, par exemple. Un métal très dur, et tout ce qui est dur peut casser. La base de cette colonne est en bronze ou en airain. On retrouve dans les Écritures, à plusieurs endroits, des allusions au bronze et à l'airain. J'aimerais en regarder avec vous Ézéchiel chapitre 1er, où il nous est rapporté la première vision du prophète. Ézéchiel va voir plusieurs choses, et en particulier un personnage qu'il va décrire dans les versets précédents, et au verset 27, il est dit ceci. Ézéchiel chapitre 1er, verset 27. « Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, et au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. » Ce personnage, que l'on connaît par le contexte comme étant celui que l'on appellera Jésus, se trouve présenté au prophète comme étant des reins polis, glorieux, rayonnants, extraordinaires. Quand on tourne les pages de notre Bible jusque dans l'Apocalypse, on est impressionné de voir que Jean va avoir une vision semblable au début de son livre dont il rapporte ce dont il se souvient. Et lui aussi va voir Jésus et il va exprimer ce qu'il voit au travers d'images. Et on a l'impression que Jean n'arrive pas à dire ce qu'il voit. Il utilise les mots qui sont à sa disposition. Mais ce qu'il voit dépasse vraiment ce qu'il arrive à décrire. Il va dire, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, au verset 14, « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. » Vous avez remarqué ? Ses pieds sont comme de l'airain ardent. Et on retrouve cette image qu'on a dans notre colonne, c'est la base, ses pieds. Il a deux pieds. Alors je réfléchis et je pense à ce texte que l'apôtre Paul a écrit à l'église d'Éphèse, où il parle de cette fameuse base sur laquelle l'église repose. Dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2, l'apôtre Paul s'exprime ainsi à partir du verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous avons l'impression vraiment d'être encore une fois dans le contexte du temple. et nous ait dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Le roc sur lequel cette église est construite, c'est le Christ. Et puis il y a deux fondements, le témoignage des apôtres, le témoignage des prophètes. Comment l'église s'appuie-t-elle sur le témoignage des prophètes et des apôtres? Sur le témoignage de la parole de Dieu dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Et on retrouve cette image que l'on a dans cet alliage extraordinaire. Deux métaux plutôt mous, plutôt malléables, qui mis ensemble vont devenir d'une force extraordinaire. Et c'est vrai, si vous prenez l'Ancien Testament tout seul, vous n'avez pas l'ensemble, vous n'avez qu'une partie. Si vous prenez le Nouveau Testament tout seul, vous manquez une partie essentielle de la parole de Dieu. Mais si vous mettez les deux ensemble, que vous prenez toute la parole de Dieu, vous avez là quelque chose de solide sur lequel vous pouvez appuyer tout l'enseignement que Dieu veut nous faire comprendre. Alors cette base en bronze ou en airain de cette colonne, c'est le fondement de la parole de Dieu. Alors nous avons là un personnage, un chrétien, un croyant, qui est solidement enraciné dans la connaissance de la parole de Dieu. L'Ancien et le Nouveau Testament, il a une base solide, une base qui ne va pas pourrir comme on plante un piquet en terre, une base qui résiste parce qu'elle est fondée sur toute la parole de Dieu. Et puis le texte nous disait tout à l'heure que cette colonne avait un chapeau, un chapiteau en argent. Pourquoi un chapiteau en argent? Pour ne pas que la colonne pourrisse par le haut. C'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, que les paysans vont mettre une boîte de conserve sur le sommet de leur piquet parfois. Ils ne vont pas mettre une boîte de conserve en argent, mais dans le temple, c'était un chapiteau en argent. Mais pourquoi en argent? Alors le texte d'Exode chapitre 30 va nous aider à le comprendre. Exode chapitre 30 nous rapporte une institution de l'Ancien Testament qui est très éclairante sur ce que le plan du salut représente aussi. Exode chapitre 30 au verset 11, il est écrit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-sicle, selon le sicle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-sicle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessous paiera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne payera pas plus, le pauvre ne payera pas moins d'un demi-sicle comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. » Curieuse institution. Nous devons être rachetés. Et cette image, bien entendu, ce vocabulaire, résonne à nos oreilles comme un vocabulaire du Nouveau Testament. Nous avons été rachetés à un grand prix. Ce chapiteau en argent représente ce poids d'argent qui est donné au temple pour le rachat des personnes. Et vous avez remarqué, le texte nous dit que le riche ne paye pas plus, le pauvre ne paye pas moins. Nous avons tous été rachetés au même prix. Le prix du sacrifice de Jésus qui a été offert pour nous, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, tous les êtres humains dans tous les temps ont à leur disposition ce salut en Jésus-Christ. Il faut qu'ils le reçoivent. Alors j'aime cette image du chapiteau en argent. On la retrouve dans l'épître aux Éphésiens, bien entendu, dans la panoplie du soldat que l'apôtre Paul décrit au chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens. Vous connaissez l'image. Éphésiens chapitre 6, au verset 17, il est dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Vous connaissez tout cette panoplie que l'apôtre Paul décrit avec différentes armes que le chrétien est invité à employer dans sa marche chrétienne. Mais il est dit ici, prenez le casque du salut. C'est l'image que l'on retrouve dans notre colonne, le casque. Permettez-moi de suggérer que ce casque du salut est en argent, parce qu'il représente ce rachat qui a été offert pour chacun d'entre nous par le sacrifice de Jésus. Un rachat que nous ne pouvons pas payer, que nous ne pouvons pas compenser, qui est le même pour tous, et qui est notre protection, notre assurance, l'assurance du salut. Alors j'ai ici une image impressionnante. J'ai l'image d'un être humain. Avec sa faiblesse, il est en bois. Il n'est pas très solide, mais il a une base résistante en airain, une connaissance, un enracinement dans la parole de Dieu. Et puis, il a le casque du salut. Il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Il a accepté d'être racheté par Jésus. Il a ce casque en argent. Mais ces colonnes ne sont pas toutes seules comme ça dans le désert. Le texte nous disait qu'elles étaient rattachées les unes aux autres par des tringles et des crochets. Alors l'apôtre Paul nous explique dans les épîtres qu'il écrit, dans les lettres qu'il envoie aux églises, quel est le lien qui attache ces colonnes les unes aux autres. Regardez avec moi dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, au verset 14, il est dit ceci. « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Ah, le lien qui attache les colonnes les unes aux autres, c'est l'amour qui est le lien de la paix, cette paix qui attache les uns aux autres. La même idée va être prise par l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens. Reculez de quelques pages, si vous voulez, dans Éphésiens chapitre 4. Dès le premier verset, il dit ceci. Éphésiens chapitre 4, verset 1er. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous avez remarqué ici encore, le même langage est utilisé. Qu'est-ce qui va rattacher les différentes colonnes de ce sanctuaire? Eh bien, c'est cette unité par le lien de la paix. Patience, douceur, humilité sont dans le même contexte. Alors, je suis impressionné de voir cette colonne, parce qu'elle n'est pas toute seule. C'est un chrétien faible, mais solidement enraciné dans la connaissance de la parole de Dieu. La base en airain, solidement assuré de son salut, le casque du salut, et il est rattaché aux autres par le lien de la paix. Vous la voyez cette colonne? Avec ses bras tendus à la colonne d'à côté. Et voilà tout d'un coup que nous avons une image incroyable de l'Église. De l'Église qui entoure ce sanctuaire. Une Église assez extraordinaire parce que sur ses tringles, sur ses liens, qui attache les membres de l'Église les uns aux autres, se trouve un voile, nous dit le texte. Et nous le retrouvons, ce voile. Le texte nous fait comprendre qu'il ne s'agit pas d'un rideau qui pend entre chaque colonne. Mais le texte que nous voyons tout à l'heure dans Exode 38 disait que c'est un tissu qui fait le tour du sanctuaire, qui couvre d'une seule pièce l'ensemble. Or, j'imagine que pour le transporter, ils avaient le moyen de le couper en morceaux. Mais quand il le montait, c'était d'une seule pièce, tout autour du sanctuaire, d'un côté de la porte jusqu'à l'autre. Et dans le livre de l'Apocalypse, je découvre ce que représente ce tissu-là. Apocalypse chapitre 19. Vous connaissez ce passage qui concerne la fin des temps. Apocalypse chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Mais dites-moi, ces œuvres justes des saints, d'où viennent-elles? Alors on pense à ce moment-là aux paraboles que Jésus avait données. Vous vous souvenez cette parabole du festin où le maître va inviter un tas de gens et leur envoyer à l'avance des robes qui leur sont données pour venir se présenter au festin. Ces œuvres justes des saints, elles nous sont données. C'est le Seigneur qui, par son esprit agissant en nous, produit ces œuvres justes des saints, produit ce fin lin éclatant et pur. Imaginez un peu, malgré les illustrations bien faibles que nous pouvons avoir aujourd'hui, la beauté de ce sanctuaire créé dans le désert, de l'airain, avec ses reflets rouges, l'argent éclatant, le voile qui fait tout le tour, blanc. À l'intérieur, on va voir de l'or. Ce sanctuaire devait être d'une beauté fantastique. Maintenant, je vois dans cette image, une image très concrète de l'Église. Nous sommes chacun ses colonnes. Nous avons cet enracinement dans la connaissance de Dieu et de sa parole. Nous avons reçu le casque en argent, le casque du salut. Nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur, c'est lui qui nous a rachetés. Ces liens nous attachent les uns aux autres. Et nous formons cette Église qui fait le tour de la présence de Dieu. Dieu avait dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alors je remercie le Seigneur de ce qui nous fait la grâce, de sa présence au milieu de nous. C'est une bénédiction et tout d'un coup je réalise que nous sommes les gardiens de sa présence. Nous sommes cette limite entre le monde là-dehors et cette enceinte sacrée où la présence de Dieu se manifeste. Mais l'image maintenant prend une tournure particulière parce que on peut aller un peu plus loin. Et j'imagine que tout d'un coup, pour une raison ou pour une autre, le lien qui attache deux colonnes ensemble casse. La tringle tombe, les crochets se défont. Que va-t-il arriver de ce voile qui fait tout le tour ? Il va tomber aussi. Il va tomber aussi, et là tout d'un coup l'image est extraordinaire, parce que tant que le voile est accroché sur les colonnes, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit ce voile, les œuvres justes des saints. On voit la base en airain, solidement enracinée dans l'enseignement de la parole de Dieu. On voit le casque du salut, la puissance du salut en Jésus-Christ. Mais la colonne, elle est cachée par ce voile. On ne voit pas ce bois, on ne voit pas cet humain. Mais quand tout d'un coup, le lien entre deux colonnes se brise, on voit la colonne de nouveau. Dans son aspect humain, faible, putrescible, destructible. Il n'est plus caché, couvert par ce voile de la justice que Jésus nous donne et qui nous permet d'agir selon sa volonté. Quand le voile s'effondre, alors tout d'un coup il y a une faille et on voit de nouveau les colonnes. Le Seigneur voudrait que les liens entre les colonnes restent suffisamment solides pour que ce voile de la justice du Christ qui nous est donné cache constamment notre faiblesse humaine. Alors quand les conflits, quand les difficultés surgissent dans l'Église, je pense à cette image du voile qui tombe et qui fait que de dehors et de dedans, on peut voir encore la faiblesse humaine. Mais le Seigneur, dans sa bonté, s'est raccroché, il s'est réparé. Il s'est réparé ses liens et suspendre à nouveau sur nous ce voile de sa justice pour nous cacher à nouveau, malgré nos faiblesses, malgré nos échecs, malgré nos conflits, malgré nos erreurs. Cette image de l'Église est impressionnante parce que je trouve dans cette image l'expression de l'amour et de la confiance que Dieu a en chacun d'entre nous pour être des porteurs de sa justice. Des porteurs de sa justice auprès de ceux qui nous entourent, qu'ils soient dedans ou qu'ils soient dehors. Quelle responsabilité finalement ? Il y a dans les Écritures une autre image que je trouve intéressante et que j'aimerais regarder avec vous dans le Cantique des Cantiques. Dans le Cantique des Cantiques se trouve un passage intéressant, un chant d'amour extraordinaire. Et il est difficile de ne pas voir aussi dans ce Cantique des Cantiques une dimension particulière parce que l'époux et l'épouse sont deux personnages que l'on retrouve dans le Nouveau Testament avec Jésus et l'Église. Mais dans le livre des Cantiques se trouve une image que je trouve intéressante et qui est très parlante par rapport à ce que nous voyons dans le sanctuaire. J'aimerais lire cette image avec vous dans le Cantique des Cantiques au chapitre 3. À partir du verset 7, il est écrit ceci. « Voici la litière de Salomon et autour d'elle 60 vaillants hommes. des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue de l'alarme nocturne. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois de Liban. Il en a fait les colonnes d'argent, le dossier d'or, le siège de pourpre. Au milieu est une broderie, œuvre d'amour des filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Il y a dans cette image plusieurs choses qui attirent mon attention. Parce que Salomon, encore une fois, c'est le fils de David. Mais quand on dit fils de David, on pense à Jésus, bien entendu, parce que c'est ainsi qu'on l'appelle aussi dans le Nouveau Testament. Et il nous est dit qu'il a autour de lui 60 vaillants hommes. Ah, mais je retrouve mes 60 colonnes du sanctuaire. Et ces hommes, nous est-il dit, sont armés. Ils ont l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Et ils sont armés, nous dit le texte, en vue d'une alarme nocturne. Alors je cherche dans les Écritures où se trouve cette alarme nocturne. Et je repense à cette parabole que Jésus raconte. Cette parabole des 10 vierges, où tout d'un coup, au milieu de la nuit, un cri retentit. Voici l'époux aller à sa rencontre, au milieu de la nuit, alors qu'elles sont toutes en train de dormir, sages et folles confondues. Alarme nocturne. Et je trouve intéressant que cette image qui est donnée dans le Cantique des Cantiques reprend plusieurs éléments que l'on a ailleurs dans les Écritures. J'y vois dans la litière de Salomon une image du sanctuaire, parce que nous sommes nous autour de lui, ses gardes du corps. Extraordinaire, responsabilité solennelle, défendre le Christ sur la terre pour montrer sa beauté, pour le mettre en évidence, pour le porter en honneur à la vue de tous ceux qui nous entourent. C'est la tâche de l'Église, c'est une responsabilité colossale, mais c'est un privilège redoutable. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes ces 60 colonnes, ces 60 vaillants hommes qui sont armés de la parole de Dieu, assurés du salut et qui entourent la présence du Seigneur. Belle image. À condition toutefois, à condition que le rideau reste bien suspendu sur le lien qui unit les membres les uns aux autres. Je repense à cette parabole que Jésus racontait par rapport aux 10 vierges. Et dans le livre Tragédie des siècles, à la page 462, je lis ce paragraphe. La venue du Seigneur en qualité de souverain sacrificateur dans le lieu très saint pour purifier le sanctuaire, mentionné dans Daniel, chapitre 8. La venue du Fils de l'homme auprès de l'Ancien des Jours, dans Daniel, chapitre 7. La venue du Seigneur dans son temple, dont parle Malachie, sont autant de descriptions du même événement, à quoi il faut ajouter l'arrivée de l'époux mentionné dans la parabole des 10 vierges. Nous avons souvent développé l'idée que lorsque l'époux arrive, c'est le retour de Jésus. En fait, le parallèle entre ces différents textes nous fait comprendre que l'arrivée de l'époux est en réalité ce moment particulier dans l'histoire et dans l'histoire de l'Église, où dans le ciel, cette dernière étape avant le retour de Jésus va s'ouvrir. Cette dernière étape où Jésus va se présenter devant son Père dans cette salle du jugement, devant le trône, exercer son jugement. Jugement dans la mentalité biblique, c'est-à-dire la réhabilitation permanente, définitive, de tous ceux qui lui appartiennent comme ses enfants de Dieu pour le reste de l'éternité. Quand ce jugement sera fini, alors l'époux pourra venir pour la fête. Et cette fête, c'est son retour. Nous sommes en train de réaliser que nous vivons cette époque-là, justement. Que nous sommes dans ce moment où cette alarme nocturne nous interpelle en nous disant, allez à sa rencontre. Portez-le en gloire devant l'humanité parce que vous êtes en tant qu'Église. Montrez-le au monde. Exaltez Jésus plus haut et plus haut encore. C'est les conseils qui nous sont donnés depuis longtemps. Nous sommes ces colonnes. Et j'aimerais que le Seigneur m'accorde la grâce d'être véritablement une colonne solide dans son temple. dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Jean mentionne à nouveau cette image, en rapport avec l'église de Philadelphie, c'est-à-dire précisément l'église qui représente l'époque durant laquelle ce jugement a commencé dans le ciel. L'époque durant laquelle l'époux est venu dans cette alarme nocturne. Au verset 12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. » Alors j'attends ce moment où le Seigneur nous donnera la grâce d'être une colonne dans son sanctuaire céleste. Mais pour être une colonne dans son sanctuaire céleste, il faudra que nous soyons dès maintenant dans son Église une colonne à sa gloire, enracinée dans la parole de Dieu, saisie par l'assurance du salut, liés les uns aux autres, porteurs de sa justice devant le monde.